de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Comment peut-on parler de la vie de Joseph Kessel ? Cet homme-là en a eu plusieurs des vies. Et qui prétend qu'il faut savoir choisir entre l'action et la méditation, entre l'aventure et l'écriture, ne connaît pas Kessel. Mauriac, qui n'était jamais tendre avec ses contemporains et moins encore avec ses confrères, disait de lui dans son bloc-notes « Il est de ces êtres à qui tout excès aura été permis, et d'abord, dans la témérité du soldat et du résistant, et il aura gagné l'univers sans avoir perdu son âme. » Kessel a été bien entendu de toutes les guerres. En 1916, il avait 18 ans et s'engagea dans la cavalerie puis dans l'aviation. Il sera ensuite correspondant de guerre en Espagne, puis rejoindra la résistance avant de regagner Londres et les forces aériennes de la France libre auprès du général de Gaulle. Éternel voyageur sur tous les continents, éternel romancier, auteur de 80 romans importants dont nombre de succès mondiaux comme par exemple Le Lion et dont nombre furent portés à l'écran comme Belle de jour ou encore L'armée des ombres, éternel témoin, il sera le correspondant de François au procès de Nuremberg, éternel combattant, il est l'auteur avec Druon du Chant des partisans. Kessel est indispensable pour comprendre le XXe siècle tel qu'il nous est légué pour le meilleur, l'intelligence, la soif de vivre et l'énergie. En 1956, il racontait dans une série d'entretiens avec Paul Guimard comment il avait vécu la guerre d'Espagne.
La radiodiffusion télévision française présente... Témoin parmi les hommes, les aventures et les souvenirs de Joseph Kessel. Ces entretiens ont été réalisés avec la collaboration de Paul Guimard.
Nous vous avons laissé en Amérique du Sud sur les traces de Mermoz. Nous étions à ce moment-là aux environs de 1937. Or, il se trouve qu'une fois de plus, l'actualité vous a fait signe pour vous empêcher de vous laisser aller au gré de vos mélancolies ou de vos fantaisies, et un signe tout à fait impératif, la guerre d'Espagne. Étiez-vous déjà allé auparavant en Espagne ?
J'y avais été une fois, et c'était une sorte de prologue à la tragédie que l'Espagne a connue pendant 2 ou 3 ans. Sans doute on ne peut pas échapper à son destin, car en 34, c'est-à-dire 3 ans plus tôt, fatigué par un accident d'automobile et plusieurs reportages que j'avais fait ensuite, je m'étais dit, je vais prendre 2 mois de vacances, 2 mois de vacances de touriste. Fini la préoccupation de surveiller les événements, d'essayer de me rappeler les êtres et les choses pour en tirer un article ou immédiate ou à mon retour, je vais oublier tout cela, je vais me promener. Donc, je pars en automobile de Paris et je me dirige par petites étapes vers Barcelone. Or, c'était au mois d'octobre 34, le lendemain de mon arrivée, plus de taxi, plus d'électricité, les garçons de l'hôtel refusent de servir, je demande de quoi il s'agit, grève générale. Mais ça n'était pas une grève générale ordinaire, comme il s'en passait souvent à Barcelone, qui était le fief des anarchistes. C'était une grève ordonnée par le gouvernement catalan, lequel voulait obtenir son indépendance. Et le lendemain, l'insurrection a éclaté. Il ne s'agit pas là de guerre civile, ce n'est pas Franco contre la République, ce n'est pas la République contre la monarchie, c'était le mouvement d'une province qui voulait se séparer du reste de l'Espagne. Alors, que pouvais-je faire ? J'ai téléphoné à mon journal, qui était alors le matin, que je me trouvais là par hasard, et au lieu de touriste, me voilà de nouveau devenu reporter. D'ailleurs, l'insurrection n'a pas duré longtemps, car elle n'était appuyée que par les partis bourgeois de Catalogne, les anarchistes ayant refusé à suivre ce mouvement, étant donné qu'il était un mouvement bourgeois. Donc il était condamné, parce que les troupes de choc, les vrais combattants courageux jusqu'au désespoir, et j'avoue que j'en ai rencontré quelques-uns et que je les ai aimés passionnément, toujours en tant qu'hommes et sans penser à leurs idées, c'était les anarchistes catalans. Cette insurrection a été matée aussitôt que les premières troupes sont arrivées à Barcelone. Mais il est resté tout de même quelques garçons très jeunes qui ont voulu mourir avec honneur, et pendant 3 jours, des individus isolés, condamnés à mort par avance, ont tenu sur les toits en tirant jusqu'au bout leurs pauvres munitions, arrêtant toute la vie de Barcelone, et je me suis promené parmi les balles qui sifflaient dans ces ruelles étroites du côté de la cathédrale, avec une admiration profonde pour ces desperados inspirés. Mais l'homme qui, de cette période, m'a laissé le souvenir le plus étonnant, s'appelait Pérez Farache, qui commandait, avant l'insurrection, la garde catalane, qui s'appelait les Mossos d'Esquadra. C'étaient des gens habillés selon la vieille tradition catalane, ils étaient quelques centaines au plus, c'était une sorte de gendarmerie pacifique, et qui était là surtout pour montrer par ses uniformes que la Catalogne était fidèle à ses traditions. Mais leur chef avait pris la chose au sérieux et s'était battu jusqu'à la fin. Il avait été fait prisonnier et j'ai assisté à la cour martiale qui l'a jugé. Cela se passait dans un caveau de Montjuïc, la vieille forteresse où dans le temps on avait fusillé tous les révoltés, et on aurait dit un tableau de Goya, car ces officiers aux mines hautaines, livides, ces murs crépis à la chaux, ces gardes avec les baïonnettes formaient un tableau d'un autre âge. Pérez Farache a été condamné à mort. Et j'ai eu le privilège d'aller le voir dans sa cellule. J'étais très ému parce que je l'avais vu avant l'insurrection et nous avions lié assez vite amitié. Et alors je lui ai demandé, maladroitement sans doute, est-ce que vous ne regrettez rien ? Alors il a eu cette réponse étonnante qui donne l'essence même de l'utopie peut-être, mais aussi de la magnifique bravoure anarchiste. Il m'a dit « Pourquoi regretterais-je quelque chose ? Si nous avions gagné, c'est-à-dire si nous avions obtenu l'indépendance de la Catalogne, je me serais battu pour l'indépendance de ma petite province en Catalogne, qui est celle de Lérida. Puis, si nous avions gagné, je me serais battu pour la ville de Lérida, et puis je me serais battu pour l'indépendance de ma maison, et je n'aurais déposé les armes que lorsque tous les hommes auraient été libres de faire ce qui leur plaît. »
Ce qui fait que 3 ou 4 ans par avance, vous étiez, si je puis dire, dans le bain pour comprendre et poursuivre la vraie guerre d'Espagne.
Oui, et toujours au point de vue, au seul point de vue qui m'intéressait, c'est-à-dire au point de vue des individus. La première chose qui m'a frappé, comme en étaient frappés tous les observateurs et journalistes et voyageurs rares d'ailleurs qui venaient en Espagne républicaine, dans la zone républicaine pendant la guerre civile, c'était une épouvantable misère. La faim qu'on a connue en France sous l'occupation était un jeu d'enfant auprès de la famine absolue, totale, dont a souffert la population pendant 2 ans à cette époque en Espagne. Mais il y avait cette fierté, cette étonnante fierté espagnole qui faisait que même lorsque les gens comme nous, c'est-à-dire mon photographe, mon frère qui m'accompagnait et moi, qui avions quelques provisions qu'on obtenait soit par contrebande, soit à des prix exorbitants pour les autres, soit par l'intermédiaire du consulat de France, quand nous offrions une boîte de sardines ou une boîte de conserve quelconque à un ami espagnol, il la refusait toujours. Et pourtant, ce même Espagnol, et c'est là où pour la première fois, nous l'avons vu depuis, pendant l'occupation, on a su qu'il se passait la même chose dans les camps de concentration et partout où les gens étaient privés de tabac, mais ce même Espagnol si fier, vous suivez en attendant que vous jetiez votre cigarette pour ramasser le mégot. Et à ce propos, je me souviens d'une scène vraiment exemplaire qui s'est passé dans un music hall, car les music halls continuent à fonctionner, pas chauffés, glacés, peuplés d'un public en haillons ou presque, dans un music hall qui était plein et où une chanteuse avait beaucoup de succès. Chaque fois qu'elle terminait une chanson, il se trouvait un donateur, un admirateur vraiment généreux, puisque au lieu d'envoyer une fleur sur la scène, il jetait une cigarette ou une moitié de cigarette. La chanteuse s'arrêtait un instant, mettait ce précieux don dans son bas et continuait. Et tout à coup, l'orchestre s'est arrêté. On n'entendait plus une seule respiration dans la salle, et la chanteuse elle-même a été frappée de stupeur et de silence pour plusieurs instants. C'est qu'un homme, sans doute un Américain qui appartenait aux Brigades internationales, venait de lancer sur la scène une chose inouïe, un paquet tout entier, un paquet de camels. Ça, c'est le côté pittoresque de la fin. Mais là où j'ai eu le plus mal, c'est un jour, à Madrid, dans un parc public, j'étais assis sous le soleil, qui était précieux car on gelait. Vers midi, il faisait tiède. Et à côté de moi étaient assises deux femmes du peuple. Leur petit garçon, qui devait avoir entre 5 et 7 ans, jouait à côté d'elles. Et chaque fois que l'un de ces garçons voulait s'élancer, courir, faire un mouvement un peu brusque, leur mère les arrêtait. Alors j'ai demandé, dans un assez mauvais espagnol, mais tout de même compréhensible, j'ai demandé pourquoi ils sont malades. Elles m'ont dit, mais non, pas du tout. Seulement, vous comprenez, plus ils font de mouvements et plus ils ont faim.
C'est une histoire en effet abominable, mais en ce qui concerne la guerre d'Espagne, on a plus de mal qu'ailleurs à séparer l'individu de l'idée, car la guerre d'Espagne a vraiment marqué la fin d'un monde et le commencement d'un autre, et singulièrement la montée du fascisme.
Oui, mais là où j'étais, on ne s'en apercevait guère, puisque les gens qui étaient autour de moi étaient tous unis, malgré leurs différences de parti, profonde, les communistes, les anarchistes, les socialistes et même certains éléments bourgeois étaient tous unis par la haine du fascisme et prêts à combattre vraiment presque jusqu'à la mort avant d'accepter cela. Et ils ne l'ont accepté qu'à bout de munitions, à bout de force, à cause d'une disproportion monstrueuse d'armement, car les gens de Franco étaient abondamment munis d'avions, de tanks, de canons par les Italiens de Mussolini et les Allemands d'Hitler. Ils avaient des escadrilles entières d'aviateurs italiens et d'aviateurs allemands, tandis que du côté des républicains, il n'y avait vraiment rien.
Oui, d'ailleurs, même ceux qui ne s'intéressaient pas personnellement, ou le mot intéressé est mauvais, qui ne participaient pas personnellement à cette lutte, savaient très bien que cela dépassait le cadre de l'Espagne, qu'il était en réalité question de la lutte de deux conceptions du monde.
Et que c'était un prologue tragique à un drame beaucoup plus grand. Mais dans ce drame espagnol, il y avait des côtés vraiment étonnants par leur simple caractère d'humanité. Ainsi, une des choses les plus dramatiques et qui a l'air d'un film tout fait était le droit d'asile que représentaient les légations. Et à la légation du Chili, j'ai vu 300 personnes, hommes et femmes, qui logeaient dans le jardin, qui logeaient dans les écuries, qui logeaient dans les maisons du jardinier et qui vivaient là depuis 3 ans. Ils ne pouvaient pas sortir de l'enceinte de la légation car aussitôt ils auraient été pris, jugés et exécutés car, naturellement, c'était des gens de la 5e colonne. Il y avait des naissances, des morts, des mariages et le ministre du Chili qui me recevait et qui était lui-même de tendance républicaine veillait à cette hospitalité extraordinaire avec vraiment un soin et une conscience étonnante. Ces gens sont sortis indemnes de l'aventure et quand Franco est arrivé, ils étaient les premiers à le recevoir. Les républicains eux-mêmes, parfois, malgré la haine inexpiable et la cruauté espagnole bien connue des deux côtés, ont montré une générosité aussi purement espagnole. Ainsi, le cas du toréador Rafael Ortega. Pendant que j'étais à Madrid, il était en prison parce qu'il ne se cachait pas du tout d'être un franquiste et il attendait tranquillement la mort. Or, on a organisé une corrida pour une œuvre de bienfaisance. Et on est allé trouver, un délégué du gouvernement républicain est allé trouver Ortega et lui a dit « Est-ce que tu veux une dernière fois torer ?» Ortega a répondu « Bien sûr, c'est mon métier, c'est tout ce que j'aime dans la vie, mais je ne le ferai qu'à une condition. Dans chaque corrida, il y a en général 6 taureaux dont s'occupent 2 toréadors, mais il a dit « Du moment que c'est ma dernière corrida, je veux les 6 taureaux pour moi seul. » On lui a dit « Très bien. » Et alors, quand le jour est venu, comme il n'avait rien à perdre, et puis avec cette superbe orgueil espagnol pour montrer qu'il allait bien mourir, il a accompli de tels exploits que la foule tout entière s'est dressée et à la fin de la corrida a demandé sa grâce, à quoi le gouvernement républicain a non seulement accédé, mais encore on l'a conduit jusqu'à la frontière qui séparait le territoire de Franco du territoire républicain, on l'a laissé passer et il a été toré de l'autre côté.
Mais pour ce qui est de la guerre elle-même, en avez-vous partiellement, au moins, suivi le déroulement?
Souvent, j'ai été sur la plupart des fronts avant que la région de Barcelone n'ait été occupée par les troupes de Franco. J'ai été sur l'Ebre, j'ai été avec les brigades internationales et j'ai vu que cette guerre ressemblait en somme à toutes les guerres de mouvement. Ensuite, quand la province de Barcelone a été prise et qu'on ne pouvait plus accéder au territoire républicain que par le port de Valence, car il n'y avait plus qu'un couloir qui allait de la côte du Levant, c'est-à-dire la province de Valence jusqu'à Madrid, j'ai pu prendre place à bord d'un torpilleur français qui allait ravitailler les consulats français de Valence et de Madrid. J'ai débarqué là et j'ai suivi tout le front des deux côtés de ce couloir. Mais nous étions arrivés à ce moment, à la fin de la résistance républicaine. La situation était statique, il y avait des tranchées qui défendaient tant bien que mal ce territoire qui résistait le dernier, et on attendait l'attaque, c'était tout. De même à Madrid. À Madrid, le front principal était constitué par la cité universitaire, qui était beaucoup plus importante et beaucoup plus massive que notre cité universitaire de Paris, qui n'est composée que de pavillons. Là, il y avait de très grands bâtiments, des amphithéâtres, ça ressemblait en même temps à la cité universitaire du boulevard Jourdan et à la Sorbonne, avec tout son ensemble de bâtiments importants. La cité universitaire espagnole était coupée en deux, d'un côté les franquistes, d'un autre côté les républicains. C'était un enchevêtrement inextricable, parce que certaines maisons étaient occupées en haut par les uns, en bas par les autres. On tirait à vue, on vivait côte à côte entre ennemis, et c'était surtout des combats de patrouille, de reconnaissance, de francs-tireurs. J'ai vécu là environ une semaine, m'y rendant tous les jours par tramway, parce qu'on gagnait le front par tramway, et un des souvenirs les plus étonnants que j'ai de cette visite, c'est que me trouvant un jour à l'extrême pointe du front, le garçon qui commandait le poste, qui était un étudiant, me parlait des beautés et des distractions de Madrid bombardées sans arrêt et m'a demandé si j'avais vu un trio de clowns célèbres qui se produisait à cette époque dans un de ces music-halls ébréchés par les bombes et les obus et complètement glacés. Je fais une parenthèse, il faisait si froid que dans le Ritz, qui était l'hôtel de luxe de Madrid et où nous habitions, nous courions dans les couloirs pour nous réchauffer parce que vraiment on était complètement glacés. Un autre souvenir, c'était l'horrible menu qu'on nous servait qui était fait de lentilles gelées et d'un tout petit morceau de morue pourrie et à côté, pour rien, parce que la pesette ne valait rien à ce moment, les vins les plus extraordinaires français qui était dans la cave d'un hôtel réputé dans le monde entier, de sorte que c'est vraiment gastronomiquement l'hérésie la plus grave que nous avons commise en buvant des vins illustres et mangeant cette nourriture immonde.
Donc, à portée presque de baïonnette des franquistes, vous voilà en train de discuter cirque.
C'est ça. Et ce garçon m'en parlait avec un tel enthousiasme que je lui dis « Bon, eh ben j'irai ce soir ». Il m'a regardé comme si j'étais fou, il m'a dit « Mais vous plaisantez, il n'y a pas de place, il faut les retenir au moins un jour à l'avance ». Mais enfin, pour vous, comme vous êtes un hôte de passage, un Français, que vous écrivez sur nos combats, peut-être je pourrais vous en obtenir deux. Mais je dis, mais comment, puisque vous ne bougez pas d'ici? Mais il m'a dit, c'est très simple, il est passé dans la pièce à côté, il a décroché son téléphone de campagne, il a demandé le numéro du cirque, et le soir, j'ai vu les trois clowns qui étaient en effet merveilleux. Un autre souvenir étonnant, parce que il montre à quel point la spiritualité était mêlée à ces combats sans merci, c'est deux conservateurs de musées très jeunes qui, dans cette famine, dans ce bombardement perpétuel, n'avaient qu'un seul souci, un seul idéal, sauver, protéger les œuvres d'art. Alors, ils allaient dans les maisons particulières, ils faisaient des tournées parce qu'ils avaient de l'essence, alors que l'essence était mesurée au compte-goutte, même pour les généraux. On leur donnait de l'essence pour aller dans les maisons autour de Madrid. Et il recueillait là les Goya, les Velázquez, les Frans Hals, les toiles des peintres flamands et espagnols célèbres, et les rapportait au Prado, où, alors qu'il n'y avait presque pas d'abri pour les hommes, ces toiles étaient mises sous des carapaces d'acier ou de béton.
Et en quittant l'Espagne, dans quelle direction êtes-vous allé? Enfin, j'entends par direction votre direction d'activité professionnelle, bien entendu.
Eh bien, après être parti d'Espagne au dernier moment et d'Alicante, par le dernier avion, au milieu de gens affolés, car ils étaient condamnés à mort, les officiers, les instituteurs, les fonctionnaires républicains, et vraiment, le prix de chaque place signifiait la vie, au milieu de ces gens désespérés, et je suis parti avec un certain remords, car je me suis dit, je prends la place d'un homme qui va mourir. Je suis arrivé à Toulouse en ayant envie de crier à la France entière, et je n'étais pas le seul, chaque journaliste qui a été avait la même impression, faites attention, c'est le début de la catastrophe, c'est le début du drame. Et quand nous roulions, mon frère et moi, de l'aérodrome jusqu'au centre de Toulouse, le spectacle que nous avons vu était tout naturel, mais au fond, il était terrifiant. Les allées de Toulouse étaient pleines de gens qui jouaient aux boules, et on avait l'impression de voir des enfants jouer aux quilles, au milieu d'un incendie qui commençait.
La suite, hélas, nous l'avons tous connue.
Et alors, chacun a pu faire son propre reportage.
Vous venez d'entendre « Témoin parmi les hommes ». Les aventures et les souvenirs de Joseph Kessel. Ces entretiens ont été réalisés avec la collaboration de Paul Guimard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er juin 1956.